OK, bonjour. Ça va bien? Alors, vous êtes dans le cours « La Bible, livre humain ou divin ». On est rendu à la leçon 7, si je ne m'abuse. On est vraiment rendu dans la deuxième portion du cours, c'est-à-dire on rentre davantage dans la défense des Écritures. On n'est plus à l'endroit où on regarde comment est-ce que les chrétiens conçoivent la Bible comme livre, comment est-ce que les chrétiens regardent la Bible, mais plutôt on va chercher à répondre à des questions contemporaines. Puis en fait, la question qu'on va adresser ce matin n'est pas si contemporaine que ça. Elle date quand même depuis un certain temps. Donc, on va chercher à répondre à des questions comme celle-là dans le but de pouvoir discuter, avoir des bonnes conversations avec des amis qui s'interrogent et puis aussi répondre à des questions souvent qui sont les nôtres même. Je pense qu'il y a eu un petit problème d'envoi de courriel. Est-ce que vous avez reçu les notes par courriel? C'est ça, on a eu un problème avec le serveur puis la liste d'envoi. Oh, merci. Super, ça. Alors, on a imprimé davantage de copies ce matin. Si vous voulez vous prendre une copie papier, maintenant, on va faire un suivi. Là, je présume que vous allez recevoir les notes dès que le service va être établi. Ouais, je m'excuse. Bon. Ça va me prendre des choses là, comme du clapping dans le dos. On va aller ensemble dans un mot de prière, d'accord? Pour commencer. Bien, Seigneur, je te remercie pour ce temps qu'on peut passer, Seigneur, à étudier ta parole. Et ce matin, vraiment, ça va être un cours particulier parce qu'on va être comme à l'extérieur de la Bible pour étudier la Bible. Mais je vais te demander, Père, de venir nous édifier. Seigneur, je te prie pour ceux d'entre nous qui entendraient le sujet qu'on aborde ce matin pour la première fois. Je te prie de venir fortifier leur foi à travers ça, que ce soit justement l'occasion de grandir, de maturer dans leur foi. Dans notre foi, plutôt, Seigneur, que de douter ou quoi que ce soit. On veut, Père, avoir une foi remplie d'intelligence comme tu l'es. Et donc, on te demande de venir bénir ce matin. Je te prie, Père, de manière très pratique, de venir régler ce problème de chat dans la gorge pour que je puisse bien enseigner ce matin, Seigneur. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, vous avez besoin de vos notes ce matin, c'est vraiment important. Si vous n'avez pas de copie, mettez la main sur une copie, ça va être vraiment important. Donc, comme je l'ai mentionné, on va adresser 6 questions au cours des prochaines semaines, 6 questions qui nous sont souvent posées par nos contemporains, par des amis, tout ça, mais souvent des questions qu'on s'est posées nous-mêmes, d'accord? Puis des fois, on n'est pas allé au fond de ces questions-là. C'est pertinent d'y aller, en fait, aller au fond. On ne va pas aller au fond de toutes ces questions-là, on va aller un petit peu plus loin. Vous allez voir ce matin, on ne va pas au fond du tout. Là. Je vous donne plutôt une espèce de résumé, une espèce d'introduction à la question. Je vous mentionne aussi que la deuxième partie du cours est basée sur le livre de Craig Blomberg, « Can we still believe the Bible? » C'est seulement en anglais, mais c'est bien. C'est bien. Cet auteur-là a écrit aussi « The Historicity of the Historical Reliability of the Gospels », la fiabilité historique des évangiles. Et donc, c'est un monsieur qui a beaucoup aidé l'Église dans la défense, justement, des Saintes Écritures. Et sa spécialité, c'est le Nouveau Testament. Pardon. La question qu'on adresse ce matin, est-ce que nos copies de la Bible sont désespérément corrompues? Corrompues par le temps, corrompues par le travail des copistes? La Bible est un livre unique à bien des égards. Elle se situe dans une classe à part. Il n'y a pas de livre religieux qui est comparable à la Bible pour toutes sortes de raisons, mais on va le résumer comme ceci. Je trouve que c'est très bien exprimé par M. Blomberg. Je suis dans le quatrième paragraphe, là, dans mes notes de cours. L'unité théologique des Écritures, malgré toute sa diversité, permet au lecteur des 66 livres de saisir une intrigue narrative cohérente, une grande sagesse et une métanarration qui explique la nature humaine dès ses origines jusqu'à sa destinée finale. As-tu quelqu'un qui voudrait me traduire ça en français? S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'essayer? Pardon?
Le fait que c'est
Cohérent. On parle d'une quarantaine d'auteurs, 66 livres de la Bible, plusieurs siècles de rédaction entre le premier livre et le dernier. Et pourtant, ce livre-là est vraiment un livre. Et ce n'est pas une encyclopédie, dans le sens que Stéphane pourrait décider de commencer à écrire une encyclopédie, puis Paul, 10 ans plus tard, pourrait décider de la continuer, puis on construit squelette sur squelette, on met de la chair autour de ça, puis on fait ça comme ça. Non, là, on a des gens qui ont appartenu à des cultures différentes, des gens qui n'étaient pas toujours en contact avec les mêmes informations, avec on ne rentre même pas dans toute la question des prophéties, d'accord? On parle juste de la cohérence, de l'unité. Et lorsqu'on parle de métanarration, on est en train de parler de vision du monde. C'est une vision du monde qui fait énormément de sens et qui nous aide à comprendre énormément de choses, d'accord? Puis ça, c'est unique. Donc, ne serait-ce que pour ça, le fait que ces 66 livres-là aient une telle cohérence, adressent autant de sujets avec, encore une fois, avec énormément de cohérence, ne serait-ce que pour ça, ça classe la Bible dans une classe à part complètement des autres livres, que ce soit des livres religieux ou non. Oui. OK. Ben c'est ça, on va adresser cette question-là ce matin. Je ne sais pas si David, je pourrais avoir un micro, la main libre. Si c'est possible d'avoir la main libre, s'il vous plaît. Oui, Gérard.
Moi, je crois à l'inspiration de Dieu.
Oui.
Merci. On peut l'avoir dit de différentes façons.
À travers les siècles, on peut l'avoir écrit de différentes façons et changer des virgules, comme notre frère l'a dit tantôt. Mais la pensée de Dieu n'a jamais été altérée au travers de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et nous pouvons nous fier que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle sépare l'âme et l'esprit et elle est 100% inspirée de Dieu.
Oui, c'est ça qu'on affirme. Maintenant, ce matin, dans le sujet qu'on va aborder, on n'adresse pas la question directement de l'inspiration des Écritures. On adresse une question très précise. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Gérard. Mais on adresse une question très précise, c'est la transmission du texte. D'accord? Je veux juste vous avertir, ça va probablement être le cours le plus technique de tout le cours, la leçon la plus technique. Il y a des gens qui vont partir d'ici, puis vous allez juste avoir des chiffres en tête. OK? Prenez le temps de relire les notes à tête reposée, ça va? Vous allez voir, j'étais encore en train de réviser tout à l'heure, me préparer, puis c'est vraiment très, très technique ce qu'on fait ensemble ce matin. L'avant-dernier paragraphe de la page 1. Pourtant, malgré son caractère exceptionnel, ou peut-être en raison de celui-ci, la Bible a subi de nombreuses remises en question au cours des derniers siècles, et ces questions, accompagnées d'un certain nombre d'affirmations, en sont venues à définir bien souvent l'opinion qu'un large public se fait de ce livre. L'une d'entre elles est justement la question qu'on pose ce matin. Si on la résume en d'autres mots, la question « Est-ce que nos copies de la Bible sont désespérément corrompues? » En d'autres mots, on dirait ça comme ça. Puisque la Bible est un livre très ancien, est-ce que ce n'est pas évident qu'il n'a pu être, qu'il n'aurait pas pu être conservé de manière intégrale? Comment pourrions-nous croire que la Bible que nous avons dans nos mains aujourd'hui, quelques 2000 ans plus tard, est identique ou pratiquement à celle que les premiers chrétiens ont lue? Ça va? Dans le fond, c'est ça la question qu'on adresse ce matin. Il y a eu beaucoup de développement dans la science qu'on appelle la science de la critique textuelle. La science de la critique textuelle, c'est exactement ça. C'est l'étude des manuscrits, d'accord? Comparaison des manuscrits, est-ce qu'il y a des variantes entre tel manuscrit et tel manuscrit? Oups, il nous manque un E ici, il nous manque un S là. J'y vais en français là. Mais Mais donc ça, c'est la science de la critique textuelle. Il y a eu énormément de développement dans le dernier siècle là-dessus. Et donc, ce qui a tendance à se transmettre dans la pensée populaire, c'est que toutes ces découvertes-là auraient démontré que la Bible n'est pas un livre fiable. D'accord? Lorsque vous jasez avec les gens, c'est l'espèce d'a priori qu'ils ont par rapport à la Bible. Ils vont dire, écoute, ça a été transmis à travers tous les siècles. Mais il y a énormément d'ignorance lorsqu'ils font ces déclarations-là, d'accord? Pour eux, il y a une approche un peu simpliste là, qui se dit, bon, bien, il y a 2000 ans, donc il y a 2000 ans, ça veut dire que j'ai fait une copie. Ça veut dire que ça a pris combien de copies pour que ça se rende jusqu'à aujourd'hui avec 2000 ans, par exemple? Peut-être qu'on a la 408e copie du texte original. Alors, juste là, c'est ridicule dans le sens qu'on a des textes, qui ont 1000 ans. D'accord? On a des textes qui ont 2000 ans, on a des textes qui ont 2500 ans. Donc, c'est pas parce que je vais faire une copie pour que Linda parte avec sa copie de la Bible que la mienne, on vient de la détruire. Donc, le texte original, bien, il a existé tant aussi longtemps qu'il a existé, puis il y a plusieurs copies qui ont été faites à partir de ce texte-là. Est-ce que vous me suivez? C'est comme si les gens se disent, bien, avec chaque nouvelle génération d'êtres humains, il y a une nouvelle copie de la Bible. Non. Bien avant l'impression, on gardait des textes très anciens. D'accord? Donc ça, c'est la science de la critique textuelle, celle qui étudie l'ensemble des manuscrits, qui compare les variantes, parce qu'il y en a, il y a des erreurs de copistes, d'accord? Et donc, l'autre chose que je veux mentionner, c'est que pour un certain nombre d'entre vous, parce que vous n'avez pas encore étudié cette question-là, vous n'avez pas encore étudié ce sujet-là à fond, ça se peut que votre approche ou votre compréhension de l'inspiration des Écritures soit erronée. Puis là, on va adresser un aspect pointu concernant la Bible, concernant le Livre Saint. Et ça se peut que là, vous sortiez d'ici et vous dites, attends un peu, là, Yannick nous a dit ce matin que la Bible, finalement, n'était pas inspirée de Dieu. D'accord? Je vous dis, certains d'entre vous, les premières fois que tu abordes ces sujets-là, tu dis, wow, OK, ça peut être troublant, d'accord? En réalité, je vais rien inventer ici ce matin. Je ne vais rien enseigner qui est différent de ce qui est enseigné dans les bons séminaires évangéliques depuis 150 ans, parce que la critique textuelle a pris beaucoup plus de place dans les deux derniers siècles, d'accord? Mais j'apporte absolument rien de nouveau ici ce matin, mais ça se peut que ce soit nouveau pour vous. Ça se peut que vous ne fassiez pas des distinctions entre l'inspiration des Écritures, l'inhérence des Écritures, puis la conservation des manuscrits ou la transmission des manuscrits. Là, je viens de parler de trois sujets qui sont proches, mais ils ne sont pas identiques, d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait me dire en une phrase, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle lorsqu'on parle de l'inhérence des Écritures en théologie? Toi, tu ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Oui, Paul.
Il n'y a aucune erreur.
OK. OK. Ah non, ce n'est pas tout à fait ça. Tes proches, par exemple, ce n'est pas tout à fait ça. François. Non. Alors, l'inhérence touche jamais la transmission à travers les siècles. Oui. La version originale. OK, parfait. Merci, François. Donc, lorsqu'on parle de l'inhérence des Écritures, qui n'est pas un mot que vous avez trouvé dans le dictionnaire, c'est un terme en théologie, comme il y a des termes... Inhérence, vous ne trouverez pas ça dans le dictionnaire. Non, mais il y a plein de spécialités. Là. Il y a des gens ici qui sont dans des spécialités dont les mots que vous utilisez ne se retrouvent pas dans le dictionnaire, d'accord? Vous allez trouver ça dans un dictionnaire de théologie. Inhérence, ça veut dire sans erreur. C'est ça le point. Et donc, ce que l'Église chrétienne défend depuis toujours, c'est que lors de l'inspiration, d'accord, au moment où Dieu a donné à l'apôtre Jean l'Évangile de Jean, il l'a entièrement inspiré et donc le texte original était sans erreur. Ça, c'est l'inhérence des Écritures. Maintenant, c'est bien important, suivez-moi là, sur ce que je veux dire là. Il y a une infime minorité de chrétiens, quand je dis infime, là, c'est infime, d'accord? On parle de 1-2% là, de chrétiens qui affirment que la transmission des Écritures a aussi été inhérente. Donc, il n'y a jamais eu une seule erreur de copiste. Par exemple, vous allez trouver des articles qui vont être écrits où on va faire des études sur, on va compter des lettres dans un livre biblique, puis là, on va trouver des codes là-dedans parce qu'on s'en va chercher, bon, vous savez, en hébreu, les lettres ont une valeur numérique, fait qu'avec les valeurs numériques, on sort des mots puis des choses comme ça. Puis là, ils trouvent des choses assez fantastiques là-dedans. Bon, souvent, ces gens-là ont aussi tendance à croire dans des grandes conspirations universelles. Mais ça fait partie de la réalité de la grande communauté chrétienne. Il y a des gens qui défendent ça. On trouve ça beaucoup dans le milieu anglophone avec la King James Version. D'accord? Alors, par exemple, il y a ceux qui sont anglophones sont bien au courant de toute cette polémique-là. Il y a des chrétiens anglophones, il y en a même des francophones, j'en ai rencontré, qui défendent que la seule traduction en anglais qui est fidèle au texte original, c'est la King James. Bon, ce matin, moi, je vais vous proposer une erreur quand même qui est assez évidente dans la King James. D'accord? Donc, ceux qui adhèrent à cette vision-là, disons que c'est plus parmi ces gens-là qu'on va trouver cette idée qu'à travers la transmission même, il n'y a eu aucune erreur qui s'est glissée. C'est indéfendable sur le plan scientifique. D'accord? C'est très évident qu'il y a eu des erreurs mineures qui se sont glissées dans le travail des copistes. Et là, je suis conscient que pour certains d'entre vous, vous n'avez jamais entendu ça. Puis là, vous dites, aïe, aïe, je ne sais pas si je vais croire en Jésus après ça. D'accord? Mais c'est possible, là. C'est possible. Quand tu vas faire des études en théologie, les gens ils pensent que si tu t'en vas étudier à Sambeck, tu es dans un milieu évangélique, fait que tu vas juste te faire endoctriner, on va te faire croire tout ce qu'on veut que tu crois. Non, non, on adresse des questions difficiles par rapport au texte, puis les premières fois que tu étudies ça, c'est comme, aïe, aïe, tu te remets en question, puis là, tu étudies davantage, mais tu sors de là avec une foi plus forte, plus solide, puis quand tu t'en vas jaser avec des gens, puis qui arrivent avec des questions, bien, ta foi est intelligente, d'accord? Et pas, c'est correct de croire, c'est correct de simplement croire, mais si tu veux engager une conversation avec quelqu'un qui a fouillé puis qui a fait de la lecture, bien, il va falloir que tu aies des réponses aussi intelligentes. Puis le christianisme se défend très, très bien avec intelligence, d'accord? Longue introduction, là, mais c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent être troublés par le sujet qu'on aborde ce matin. En même temps, c'est un sujet super important, d'accord? Et personnellement, puis c'est comme ça que Blomberg le traite aussi. C'est un argument qui fortifie ma foi dans les Saintes Écritures. Donc, tout ce que je vais vous dire, peut-être que ça va vous troubler, moi, ça fortifie ma foi. Fait que gardez l'espoir, puis continuez à étudier la question. Donc, inhérence dans l'inspiration, pas inhérence dans la transmission. Ça va, ça? Ça, c'est clair? Il y a beaucoup de yeux qui me disent non. Vous lirez les notes. Je m'excuse, c'est parce qu'il faut vraiment, on a énormément de matière à voir. La question n'est donc pas, je suis en haut de la page 2, sommes-nous en présence de copies parfaites des textes originaux, mais bien la Bible que nous avons entre les mains aujourd'hui est-elle clairement fiable en matière de foi et d'éthique chrétienne? D'accord? C'est plutôt ça la question qui va nous préoccuper, nous. Et si c'est tout nouveau là, ce que je vous dis là, juste pour vous montrer un petit peu l'intégrité, puis vous êtes amené à réfléchir davantage, l'intégrité de la démarche chrétienne dans ça. Mais si vous avez une Bible, à part si vous êtes juste sur une version électronique, là, c'est le défaut des versions électroniques, c'est qu'elles ont tendance à éliminer beaucoup de notes. Là. Mais si vous avez à peu près n'importe quelle version, la Colombe, la Second, la Sommeur, vous avez des notes dedans, tout petit caractère là, que vous ne lisez jamais. Là. Puis dedans, ça va être marqué. Par exemple, il y a beaucoup de manuscrits qui ont tel mot-là, puis d'autres manuscrits qui ont tel mot-là, on n'est pas sûr exactement. Vous les avez toutes, ça, dans vos Bibles, d'accord? N'importe quelle bonne Bible d'étude, même Bible assez simple, va avoir plusieurs de ces annotations-là. Et donc, portez-y davantage attention, puis apprenez à aller vers ces questions, à être sensible à ça, d'accord? On va rentrer davantage dans le sujet. Alors, qu'est-ce qui trouble tellement les gens qui en amène certains à remettre en question même la validité des Écritures? Certains érudits estiment qu'il y a près de 400 000, c'est beaucoup là, 400 000 variantes textuelles dans les manuscrits anciens du Nouveau Testament, seulement pour le Nouveau Testament, d'accord? Puis la grande majorité des polémiques là, tournent autour du Nouveau Testament, les questionnements. C'est particulier parce que c'est là qu'on a beaucoup plus de manuscrits que dans le cas de l'Ancien Testament. Est-ce que tout le monde sait de quoi je parle quand je parle des manuscrits? Ça va? Non. Ben, ça pourrait être les manuscrits originaux, mais on ne les a pas. Les manuscrits, c'est des textes anciens. C'est des textes anciens qui sont des copies de la Bible. D'accord? Ça, c'est les manuscrits. Donc, ce sont des copies de la Bible qui ont circulé. Puis lorsqu'on parle des manuscrits, dans le fond, on parle des versions avant l'avènement de l'imprimante. D'accord? à partir de l'impression, ça a changé beaucoup de choses. C'est écrit à la main. Ça va? Il y a deux sortes. Je n'irai pas dans tout ça, les cursives. Bon, il y avait différentes manières d'écrire. Puis bon, je n'irai pas dans... Pardon? Manuscrit. D'accord? Chaque fois que vous voyez MSS, c'est une abréviation pour manuscrit. Là. C'était un petit peu long pour moi de taper manuscrit à toutes les fois. Je m'excuse. Mais c'est ça que vous allez voir aussi dans vos Bibles, souvent MSS, manuscrit. D'accord? Donc, ce sont des copies faites à la main de la Bible ou des portions de la Bible. Ce sont les manuscrits. Avec Gutenberg, lorsque l'impression a commencé, tout ça, on n'a pas la même problématique qui est là, d'accord? Parce que, bon, tu peux identifier une chaîne d'impression où il y a une erreur, tu jettes ça aux poubelles, puis ça va. Mais même dans nos Bibles, je veux dire, des fois, vous lisez, là, puis vous trouvez, ça m'arrive dans ma Bible de trouver des erreurs de français, d'accord? Une erreur évidente, là, c'est pas une question d'opinion, une faute de français qui s'est glissée dedans, tu sais. Bon, donc c'est ça, l'erreur est humaine, semble-t-il. Donc, certains érudits estiment qu'il existe près de 400 000 variantes textuelles dans les manuscrits anciens du Nouveau Testament. Partant de cette observation, certains sceptiques ont conclu qu'il était proprement ridicule d'imaginer qu'on pouvait être en mesure de reconstruire un texte intégral. Ils disent qu'il y a tellement d'erreurs, c'est impossible d'avoir la conviction que j'ai un texte fiable. Ne soyez pas inquiets, là, c'est faux. D'accord? On va y arriver. Mais je veux juste je vous amène là où la question est soulevée. Que répondre à cette affirmation? Tout d'abord, nous dirons qu'une personne qui entend une telle affirmation et qui est tentée de la croire ferait bien de la questionner. C'est quand même toute une déclaration. Après tout, nous parlons de rejeter le livre qui, de loin, a bouleversé et influencé le plus l'histoire humaine. Fait que si tu veux rejeter la Bible avec cette affirmation-là, moi, je vais te demander au moins de faire la preuve de ton affirmation, puis on va aller regarder ça. C'est là que le bas blesse, d'accord? C'est là que le bas blesse, c'est que les gens entendent quelque chose comme ça, puis ils ont lu le Da Vinci Code, ils ont réglé la question sur la Bible. Vous comprenez? Ils ont lu le Da Vinci Code, puis ils ont réglé la question sur la Bible. Ils ont écouté Peter Pan, puis ils savent que l'être humain peut voler. Ça va? On parle à peu près du même genre de truc, là. Ça va? Ils ont écouté une couple de films, puis ils ont trouvé qu'il y a une grande conspiration mondiale. Tout est réglé, puis il y a des extraterrestres là-dedans. C'est bon? C'est ça, mais c'est ça. Si tu décides de l'existence de Dieu et de la fiabilité des Écritures à partir du Da Vinci Code, moi j'ai jasé avec des gens dans ma famille ingénieurs. Son affirmation partait à partir de sa lecture du Da Vinci Code. Vous savez de quoi je parle quand je parle de Da Vinci Code? Vous avez vu le film? Lire le livre? C'est même pas de la bonne littérature, je m'excuse, je l'ai lu. Mais non, mais c'est ça. Donc, c'est ça. Si tu te bases là-dessus, c'est important ce que tu es en train de déclarer. D'accord? Alors, prends le temps de défendre ce que tu as affirmé. Voici les questions à se poser devant une telle affirmation. Est-ce que ces statistiques sont justes? De quelle sorte de variantes parle-t-on, si tel est le cas? Est-ce qu'on est en train de dire qu'il manque un S par ici, il manque un S par là, ou on a perdu 4 chapitres de l'Évangile de Jean? De quoi on parle? D'accord? Sont-elles mineures ou majeures? Affectent-elles le sens des textes bibliques? Ces variantes se retrouvent dans quelle quantité de manuscrits et comment ces variantes sont-elles apparues? Le chiffre très impressionnant de 400 000 nous vient d'un livre qui a été écrit par Bart Ehrman. Toute cette manière de voir les choses, c'est beaucoup le... Je me gratte plus l'oreille, c'est beau. Oui, c'est ça. David s'est endormi sur un bouton. OK, je pense qu'on ne sait pas. Est-ce que vous m'entendez? Je suis amplifié, là. Ça va? OK. Je ne me gratte plus les oreilles. C'est réglé. Comme une interférence avec mon oreille. Je fais un test, OK? Ça va. OK, on continue. Donc, c'est ça. Une des difficultés avec ça, c'est, on le voit aussi dans le domaine de la science, pour ceux qui ont lu beaucoup sur toute la théorie de l'évolution puis tout ça, il y a une grande différence entre ce que les scientifiques produisent en termes de recherche, tout ça, puis ce que vous voyez à découverte souvent, d'accord? Puis malheureusement, souvent, notre vision du monde repose sur les missions découvertes, au lieu de prendre le temps d'aller lire un petit peu plus. Puis il y a tout un phénomène de vulgarisation à travers cette chaîne-là qui donne des résultats assez ordinaires. En 1947, quelqu'un qui sait quelle découverte archéologique majeure a été faite en 1947? David. Manuscrit de la mer morte, d'accord? Il y a un petit garçon, un petit berger qui s'est enfargé dans un caillou. Il a découvert une caverne, ils sont rentrés dans la caverne, puis ça a été des développements majeurs au niveau de la critique textuelle parce que ça nous a permis de découvrir des textes, des manuscrits de passages de l'Ancien Testament, en fait, tous les livres de l'Ancien Testament, sauf le livre d'Esther. Puis là, ça nous ramenait des siècles en arrière, puis ça nous permettait de comparer ces manuscrits-là avec nos manuscrits qui étaient plus jeunes, plus près de nous. Et donc, un peu avec tout ça, dans la pensée populaire, oh, on a fait des découvertes, puis ça a démontré que la Bible n'était pas fiable. Au contraire, la critique textuelle tend à démontrer que c'est un livre extraordinairement fiable. D'accord? Et donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a toute une différence entre ce qui est véhiculé en général, puis si vous allez lire sur les recherches scientifiques. Puis dans ce sens-là, okay, Internet ne nous donne pas toujours un bon coup de main. Ça va? Sur Internet, vous allez trouver les meilleures recherches. Vous allez trouver tout ce qu'il faut pour fortifier même votre foi. Il n'y a pas de question. Mais ce n'est souvent pas ça qui va sortir en premier. Souvent, c'est de la vulgarisation, de vulgarisation, de vulgarisation avec toutes sortes d'approches. Et puis là, vous avez des espèces de... On prend les choses pour acquis, d'accord? Comme on entend là, des fois, « Oups, il y a une nouvelle qui part sur Facebook, puis bon, ben, Elvis est ressuscité. » D'accord? Il faut faire attention à cet aspect-là. Ça a tendance à aller moins en profondeur si on ne se lance pas dans des recherches sérieuses. Ça va? Donc, ce professeur-là a écrit un livre en 2005. Son livre, il l'avait intitulé « Misquoting ». J'ai donné le titre ici, là. Où est-ce que je suis? Juste ici. « Misquoting Jesus, the story behind who changed the Bible and why ». C'est encore là, c'est un titre qui a juste eu un effet accrocheur pour les ventes. Là. C'est même pas une question de citation. C'est une question de travail de copiste. Est-ce que les copistes ont fait des erreurs dans la transmission? Est-ce que ça pourrait nous amener à ne pas pouvoir se fier dans la Bible du tout pour notre foi? Puis ce monsieur-là, qui vient du milieu évangélique, anciennement évangélique professant, se dit aujourd'hui agnostique. Ça veut dire, il dit, si Dieu existe, il n'y a pas moyen pour nous de le savoir, il n'y a pas moyen de le connaître. C'est possible qu'il existe, mais on ne peut pas. Donc, il ne se dit pas athée, mais il dit, on ne peut pas être en... Il ne nous a pas contactés, puis il ne nous a pas donné d'informations. Ce Dieu-là, s'il existe. En même temps, à la fin de son livre, il va faire la déclaration suivante. Il va dire, aucune des variantes sur lesquelles on discute dans la Bible vient affecter les doctrines du christianisme. D'accord? Mais ça, c'est dans un annexe de sa version paperback, sa version format poche, qui fait cette déclaration-là. Le titre du livre lui semble dire exactement le contraire. Ça va? Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous tombez sur un livre, puis là, il vous parle du Jésus historique qu'ils ont reconstruit, l'homme qui devint Dieu, puis des affaires comme ça. Vous pouvez le lire. Moi, j'ai vraiment pas de problème à ce que vous le lisiez. Mais il va falloir que vous accordiez autant de temps à la défense de la vérité que vous en accordez à la lecture de ce livre-là. D'accord? Ça va? Simplement par intégrité même intellectuelle. Lorsque des scribes recopiaient des manuscrits du Nouveau Testament, ils ne citaient pas erronément Jésus, mais pouvaient faire de simples erreurs de copiste. En termes simples, M. Hermann nous présente, dans une approche accessible au grand public, une introduction à la science de la critique textuelle. J'ai expliqué un petit peu tantôt c'était quoi la critique textuelle, mais c'est l'étude de la nature et du nombre des manuscrits. Je m'excuse, des techniques de travail de copiste, du type d'erreurs qui ont pu s'introduire dans leur travail. D'accord? Et ça, c'est vraiment une science super sérieuse, super importante. Alors, lui, ce qu'il fait dans son approche, il se concentre sur deux passages. Et là, c'est probablement, là, pour ceux qui n'ont jamais abordé cette question-là, je vous le dis, ça, c'est quelque chose de troublant la première fois que tu l'abordes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire le plus long passage du Nouveau Testament sur lequel on a vraiment des doutes sur sa présence ou non dans les textes originaux?
Je pense que c'est quand Jésus,
ça, c'est la deuxième. C'est vrai, c'est dans l'Évangile de Jean. On va aller voir ça. C'est la fin de l'Évangile de Marc. OK? Alors, je vais tout de suite vous laisser tomber une bombe, là, puis après ça, on va avancer. Ça va? Tournez avec moi dans vos Bibles, s'il vous plaît. À la toute fin de l'Évangile de Marc. On a deux passages qui sont plus longs, celui-là et puis un passage dans Jean, d'accord, pour lesquels c'est vraiment pas clair qu'ils étaient là. Après ça, lorsqu'on parle de variantes, on va parler de quelques passages où on va avoir une longueur d'un ou deux versets où c'est pas clair s'il était là ou s'il était avant ou quoi que ce soit. En général, la grande majorité des variantes, on parle vraiment de mots ou de lettres, d'accord? Mais c'est même encore plus simple que ça. On va le voir ensemble. Là, je vais vous faire une petite recherche dans vos Bibles. Quelqu'un qui peut trouver une note dans sa Bible qui lui donne de l'information sur les versets 9 à 20. T'as une petite note? Qu'est-ce que ça dit?
Certains manuscrits anciens s'arrêtent après le verset 8 et ils ne contiennent pas les versets 9 à 20. Ceux-ci résument les récits des autres évangiles sur ce qui s'est passé quand Jésus s'est révélé de la relevé de la mort.
OK. Il y en a que ça va être entre crochets, il y en a que ça va être des petits commentaires, d'accord? Mais pour la majorité de vos Bibles, vous allez avoir une note pour ça. Puis, mon épouse me posait la question, « Oui, mais si la grande majorité des érudits s'entendent pour dire, c'est pas clair qu'il était là dans le texte original, ce livre-là, mais cette portion-là, mais même on a l'impression qu'il n'était pas, pourquoi est-ce que c'est encore dans nos Bibles? » Il y a deux raisons. Premièrement, ça a été transmis comme ça à travers les siècles, d'accord? Alors, on préfère plutôt que de modifier le texte qu'on transmet, mettre une note explicative, ce que les copistes ont fait pendant longtemps. C'est plus fâcheux pour les scientifiques qui étudient la critique textuelle de tomber devant un manuscrit puis de dire « Hey, lui, il a changé une lettre ici. » Puis il a juste changé. C'est plus pratique pour nous de tomber sur un manuscrit parce qu'on a vraiment les deux, où il y a quelqu'un qui a raturé une lettre, mais il l'a écrit, puis là, il met une note ici à côté, puis il dit « À cause de la majorité des manuscrits, on pense que ce S-là ne devrait pas être là. » Là, on a une information, puis on connaît la décision que lui est en train de prendre. Mais si quelqu'un d'autre décide de l'enlever parce qu'il se dit « Non, c'est évident, pour moi, c'était juste une erreur », puis il fait la correction sans note explicative. Ceux qui travaillent en rédaction puis en correction, vous savez de quoi on parle, d'accord? Donc, avoir cette information-là, c'est pertinent. Donc, une des raisons pour laquelle vous avez le texte-là avec des notes, c'est par souci d'intégrité, puis vous pouvez avoir cette information-là, d'accord? Puis, parce que c'est deux sections qui sont quand même gros, là, c'est quand même assez important. Il y a plein d'autres petites variantes qu'en français, ils ne vont même pas se casser la tête. Vous ne verrez pas, vous n'aurez pas cette information-là. Vous auriez besoin d'aller dans ma bibliothèque, prendre l'édition de la Société biblique du texte grec avec toutes les notes, justement, de critique textuelle, avec toutes les variantes. Et puis là, c'est mentionné tel manuscrit à celui-là, tel manuscrit à celui-là. D'accord? Donc, il y a deux passages. Il y a ce passage-là qui est quand même vraiment long. Lorsque j'ai prêché sur Marc, j'ai adressé cette question-là. Et puis l'autre passage, moi je vous avoue que c'est l'autre passage qui me fait plus de peine, mais ça c'est la réalité. Dans Jean 7, les versets 53 à 8, 11, vous pouvez aller le voir vite, là, mais le temps file, je ne vais pas m'étirer sur ça non plus. C'est tout le récit avec la femme qui aurait été surprise en adultère, qui est amenée devant Jésus, tout ça, d'accord? Et la majorité des plus anciens manuscrits, les plus fiables, n'ont pas cette portion-là, d'accord? Donc là, je vous aide à voir un petit peu comment est-ce que les gens qui font la critique textuelle travaillent. C'est qu'ils regroupent les manuscrits par famille de manuscrits, à quelle époque ils ont été écrits, dans quel pays ils ont été écrits, est-ce que c'est un manuscrit grec, est-ce que c'est un manuscrit latin, est-ce que c'est un manuscrit en langue ancienne, syriaque par exemple, et donc on les regroupe, puis là on dit, OK, là on a identifié que ce groupe de manuscrits-là, les copistes avaient telle méthode de travail, puis là on va coter, d'après leur méthode de travail, la qualité de transmission qu'ils font, d'accord? On va y revenir un petit peu plus loin, là, mais au total, on parle de 25 000 manuscrits. Donc, on n'est même pas rendu à l'endroit où on peut juste faire analyser tout ça par des ordinateurs. C'est encore trop d'informations qui n'est pas rentrée, d'accord? Donc, c'est du travail qui se fait par des êtres humains d'aller étudier, regrouper tout ça, puis définir la valeur de ces manuscrits-là. Et dans plusieurs des manuscrits les plus vieux et fiables, ces deux passages-là ne sont pas présents, d'accord? Fait que là, on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce que, par exemple, la fin de l'Évangile de Marc aurait été ajoutée? Bien, une réponse super simple, c'est lisez puis arrêtez à 8. Vous allez avoir comme le feeling que le gars il est parti prendre son café ou il y a une bombe qui est sautée ou il a juste jamais eu le temps de finir son travail. D'accord? C'est ça le feeling que ça fait. Donc, est-ce qu'il y a une conclusion qui nous manque? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, ça, c'est un des éléments possibles. C'est qu'il veut, il aurait voulu boucler les copistes qui sont arrivés dessus après, aurait dit, ben là, il manque un petit bout à ce que Marc a fait, là, on va finir sans beauté cette histoire-là. D'accord? Bon, oui, Louise.
Que Marc l'aurait terminé plus tard sur un autre feuille, mettons, là, sa feuille ouais. était rendue en bas, là, puis là, il a continué, puis que les premières feuilles ont circulé, puis ça, c'est avant le verset 9.
Ouais.
Puis là, à un moment donné, plus tard, ils ont trouvé la dernière page, que, puis on dit, ah, ben, regardons, on a la fin, là. Ben, c'est aussi fiable, mais ça a moins été copié.
C'est une bonne question, c'est une excellente question. Ça aurait pu, mais non, parce que c'est une très bonne question, Louise. Ça aurait pu être le cas, mais non, ça se peut pas dans le sens que les plus vieux manuscrits, ils l'ont pas. Fait que, il aurait fallu que Marc revienne du ciel un cent ans plus tard, puis qu'il nous donne la fin, puis qu'il dise rajoutez ça à la gang. Vous comprenez? On n'a pas l'original, premièrement. On n'a pas l'original. OK. On y revient. Je reviens à ça. Mais c'est une bonne question. Puis écoutez. Pourquoi est-ce que pour moi, ça fortifie ma foi, toute cette étude-là, c'est que ça démontre notre intégrité dans notre démarche de foi. Je vais vous donner un parallèle tout de suite, je le dis à la fin de... Non, je ne le mentionne même pas dans les notes. Par exemple, l'islam. C'est une des premières choses que vous allez aborder comme sujet si vous discutez avec un musulman. Hein? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Le musulman va vous dire, on est les trois religions du livre, on est tous des frères et sœurs, les juifs, les chrétiens, les musulmans. C'est le livre. Quel livre? L'Ancien Testament, l'Injil. L'Évangile, pas tout le Nouveau Testament, mais dans leur tête, juste l'Évangile, et puis le Coran. Maintenant, non seulement il y a eu une progression dans les révélations, dans leur idée à eux, il y a eu une progression dans la révélation jusqu'au Coran, mais deuxièmement, les Juifs ont corrompu le texte de l'Ancien Testament, les mauvais chrétiens ont corrompu le texte du Nouveau Testament, il y a juste les musulmans qui ont gardé leur texte comme il faut, puis il est beaucoup plus récent, donc il y a moins d'erreurs de copistes. La vérité, puis, je veux dire, les historiens musulmans le reconnaissent. C'est juste que ça ne fait pas partie de ce qu'ils enseignent sur leur théologie. Je n'invente pas rien, là, d'accord? Là? La vérité, c'est qu'à la mort de Mahomet, il y avait toutes sortes de versions, d'accord? On le sait, le Coran, c'est un collage qui a été fait après la mort de Mahomet. Et pour plusieurs passages, il y avait différentes versions parce que Mahomet travaillait ses textes, puis ouais, ça, puis il est en train d'ébaucher sa patente. Fait, qu'est-ce qu'ils ont fait à sa mort? Ils ont regroupé ça, ils ont dit « ça, c'est la version ». Inspirés, et ont détruit tous les autres. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, OK, à partir d'ici, ça, c'est la version inspirée. Puis vous pouvez lire sur ça certains des pères là, de la foi islamique, de la religion musulmane, vont dire, s'il n'y avait pas eu un lion qui était rentré dans la tente, qui était parti avec une peau sur laquelle il y avait le texte saint, on aurait eu tout le texte. Puis ça fait toute partie de leur histoire. Mais comment est-ce qu'ils ont réglé la quadrature du cercle? C'est qu'ils ont détruit tous les autres manuscrits. Ils ont dit, bon, mais ça, c'est la bonne version, celle-là est inspirée. Ça veut dire que tu ne peux plus faire aucune comparaison pour essayer de comprendre ce que Mahomet voulait dire pour de vrai. D'accord? Alors, je suis très à l'aise avec la démarche qu'on fait ici, qui est très transparente. Ça va? Quand je discute avec un musulman, c'est pas la première chose que je lui dis. En fait, je ne discute jamais de la foi avec un musulman au début. D'accord? Je discute d'amitié. C'est ça que je fais. Ça, c'est super important. Allez pas les offenser en faisant une prière au nom de Jésus la première fois que vous les voyez. Là, vous venez de blasphémer, là, de grâce. On ne s'en va pas là tout de suite. D'accord? Déjà, pour eux, c'est le plus grand des prophètes. On va s'en tenir à ça. C'est déjà un bon acquis. Ça va? Mais éventuellement, si on dialogue ensemble, c'est là que je m'en vais. Parce qu'eux, ce qu'ils veulent me dire, c'est « Regarde, Yannick, je veux bien t'écouter me parler de Jésus. Mettons, Jésus, tu l'as connu à travers un texte altéré que les chrétiens ont modifié. Tu n'as même plus l'Injil. Jésus n'est jamais mort sur une croix. Oublie ça. Dieu n'aurait jamais fait ça à son fils. Tu sais. » C'est là qu'on s'en va. Éventuellement, je veux aller dans cette discussion-là où eux-mêmes doivent reconnaître que leur texte est plein d'erreurs. Fait que je veux juste aller vers une démarche qui est plus intègre ensemble et reconnaître les choses. Fait que moi, je leur dis, il y a des erreurs de copistes dans ma Bible. Il y a des erreurs de copistes dans ma Bible. Si on fait un petit bout de chemin ensemble puis qu'on est intègre, il va falloir que tu reconnaisses des choses toi aussi. Là. D'accord? Parce qu'autrement, on est dans le fantastique. Là. Ça va? Donc, ces deux passages-là dans Marc, le passage dans Marc, le passage dans Jean, sont absents de beaucoup des plus vieux manuscrits les plus fiables. Et ça pose toute une question, parce que là, on dit, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans le cas de la fin de l'Évangile de Marc,
En même temps, il y a des choses bizarres un petit peu, promesses qu'on va, on va se faire mordre par des serpents, puis il n'y aura pas de problème. Fait que là, tu dis, oh, puis on sont peut-être inspirés du récit de Paul, qu'est-ce qui est arrivé avec Paul lorsqu'il s'est fait mordre, tu sais. Puis c'est pas que Dieu ne peut pas le faire, mais est-ce que Dieu a vraiment promis que tous ceux qui sont des disciples de Christ vont pouvoir mettre la main? Mais il y en a qui le croient, fait que si vous cherchez sur Internet, hein, Church Snake Ritual, vous allez voir ça aux États-Unis, il y a quelques églises qui font la pratique, cette pratique-là, des églises qui se disent chrétiennes, où ça fait partie de ton processus de foi, de déclaration. On t'amène un serpent venimeux, puis on te le met entre les mains. Vous allez trouver ça tout de suite sur Internet. C'est assez... Pardon? Il y en a qui meurent, effectivement, puis il y en a qui vivent, puis bon, ben c'est ça. Fait que oui, oui, c'est ça. Il y en a qui disent, non, Marc, c'est clair, il était là, puis on va vous le prouver. OK. Fait que c'est ça. Dans le cas de Jean, il n'y a absolument rien de troublant par rapport au texte. Tout rentre bien dans le récit, tout va bien. Fait que tu dis... Pourquoi est-ce que c'est là? Je pourrais vous expliquer un peu des hypothèses, là, mais ça serait pas mal long, ça serait pas mal technique. Et donc, ce que M. Hermann fait, c'est qu'il s'appuie sur ces deux passages-là pour dire, puis regardez bien, c'est comme ça qu'il réfléchit. Si les chrétiens, en étudiant les manuscrits, reconnaissent qu'on a des problèmes avec ces deux passages-là, d'accord? Imaginez qu'est-ce qu'il y en est du reste du texte. Est-ce qu'on peut se fier au reste de la Bible? Puis en gros, c'est ça l'approche, c'est ça le raisonnement, d'accord? Puis effectivement, ces deux passages-là sont vraiment troublants. Mais le reste du texte est pas mal solide, là. Fait que ça, c'est l'approche qu'il va prendre par rapport au texte biblique. C'est qu'il va dire, puisque les chrétiens reconnaissent que ces deux erreurs-là, est-ce qu'on peut se fier au reste de la Bible? Or, ce sont les deux seuls passages qui sont substantiels où vraiment on a des questions. Puis on les reconnaît, on les met sur la table, les questions, plutôt que de jouer avec ça. Milieu de la page 3, puis cette leçon-là, on va la compléter la semaine prochaine. Milieu de la page 3. La grande faiblesse du livre de M. Hermann est tout ce qu'il n'écrit pas dans son livre. En se concentrant sur ces deux passages les plus débattus de tout le Nouveau Testament, M. Hermann pourrait amener son lecteur à se demander combien d'autres passages de la Bible sont aussi incertains. Or, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'avec le grand nombre de manuscrits que nous possédons déjà, il est pratiquement impossible que nous découvrions jamais d'autres variantes que celles qui ont déjà été identifiées dans l'étude des manuscrits. On a au total plus de 25 000 manuscrits de l'Ancien Testament. Et donc, lorsqu'on fait la comparaison, toutes les variantes possibles, on les voit. D'accord? Comme je vous dis, il y a différentes statistiques qui sont sorties. On le mentionne au paragraphe suivant. Bart Hermann prend la statistique la plus catastrophique. Il dit 400 000 variantes. Mais il y a d'autres érudits qui disent qu'il y en a 300 000, puis d'autres 200 000. C'est quand même une petite marge d'erreur là, ici, d'accord? Et donc, lui, il part juste avec ce chiffre-là, puis il se dit, mais s'il y a 400 000 variantes, puis qu'on a ces deux textes-là qui sont comme ça, imaginez ce que le reste du texte vaut. C'est vraiment pas honnête intellectuellement comme démarche. On a 25 000 manuscrits pour comparer nos manuscrits, puis voir la validité des textes, d'accord? Et donc, ça nous permet plutôt d'affirmer le contraire. C'est virtuellement impossible de penser qu'on va découvrir un manuscrit qui daterait de l'an 36, OK? Après la naissance de Jésus-Christ, puis qui nous amènerait à dire, et voilà, dans le fond, Matthieu, il a écrit son évangile en un chapitre, puis tout le reste, c'est de l'invention. D'accord? Parce qu'on a une tonne de manuscrits qu'on compare, puis on remonte très, très proche des textes originaux dans certains des livres. Laissez-moi voir si je peux tirer une conclusion pour ce matin. OK, on va terminer la page 3, puis on va s'arrêter ici. Replaçons ces informations à la lumière d'autres informations que nous apporte lui-même, M. Hermann, toujours dans le même livre, dans son livre, quelques paragraphes plus tôt. Premièrement, on possède 5 000 environ, là, mais c'est plus de 5 700 manuscrits en tout ou en partie du Nouveau Testament grec. D'accord? Alors, c'est le Nouveau Testament, plus de 5 700 manuscrits. Oui, François? Pardon? À Matthieu 5, 22, Matthieu 5, 18. OK, oui, mais c'est bon, j'y reviendrai dans ce sens-là. J'y reviendrai dans ce sens-là la semaine prochaine. OK? Je le prends en note. Mais non, pour moi, je l'avais déjà adressé, mais c'est correct, on va le faire dans ce sens-là. Où est-ce qu'on était? 5700 manuscrits du Nouveau Testament grec. Après ça, on possède quelques 10 000 versions de la version latine du Nouveau Testament. Ensuite de ça, on a des manuscrits du Nouveau Testament dans d'autres langues anciennes, le syriaque, le copte, l'arménien, le géorgien, le slave. Puis ensuite de ça, on a toutes les citations de passages du Nouveau Testament chez les pères de l'Église. Alors, les pères de l'Église, c'est les théologiens des premiers siècles. D'accord? En général, on va aller jusqu'au troisième, un petit peu après, lorsqu'on parle des pères de l'Église. Et donc, toutes leurs citations à eux. Lorsque tu prends tout ça, ça donne plus de 25 000 manuscrits où on peut comparer pour voir des variantes, d'accord? Au total, je vais juste terminer cette section-là au haut de la page 4. Tout à coup, le portrait qui nous est dépeint se transforme. En effet, ces chiffres révèlent une moyenne de 16 variantes par manuscrit et seulement 8 variantes, si l'estimé des variantes, ce serait plutôt 200 000, on tombe à 8 variantes par manuscrit. Ces variantes ne sont pas plus réparties équitablement dans l'ensemble du texte. C'est ça. Une des choses qui est super importante de savoir, c'est que la quasi-totalité des variantes, là où on a des doutes, ça se concentre dans 6% du Nouveau Testament. Donc, ça veut dire que comme 94% du Nouveau Testament, on n'a pas de problème. On dit, OK, c'est clair, le texte est clair, il a été bien transmis, il est stable, tout ça. Puis là, tu arrives environ avec un 5-6% où tu dis, oups, là, on n'est pas sûr de ça. Oups, on n'est pas sûr de ça. Parce que telle famille de manuscrits avait ce mot-là, telle autre famille de manuscrits, oups, il manque un S ici ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc, ça nous donne tout un autre portrait. On n'est pas dans une situation où l'ensemble des Écritures ou du Nouveau Testament est à questionner. C'est qu'il y a des poches à l'intérieur du Nouveau Testament où il y a des questions. Puis c'est ce qui fait que lorsque vous êtes en train de lire votre Bible de la Genèse à l'Apocalypse, puis vous cherchez les petites notes qui sont là, celles qui apparaissent pour vous, là, c'est celles où, en étudiant les manuscrits, on reste avec des doutes. D'accord? Donc, on part de 400 000 ou 200 000 variantes, là. C'est pas clair. Dans le texte grec, il y a deux éditions du texte grec qui servent à toutes les traductions dans les langues modernes. D'accord? Il y a beaucoup d'étapes là, dans la traduction d'un texte. Fait que vous avez les gens qui font la critique textuelle, ils étudient tous les manuscrits, puis ils cherchent à établir le Nouveau Testament le plus fiable possible. D'accord? On en a deux éditions différentes. Il y a eu comme deux équipes de scientifiques qui ont travaillé à établir ça. J'ai les deux éditions dans ma bibliothèque, ça vous tente de fouiner là-dedans. D'accord? Et puis, c'est très accessible. Vous prenez des cours de grec pendant quelques semaines, puis vous commencez à comprendre les annotations puis tout ça. C'est vrai, là. Je ne suis pas en train de dire que vous allez devenir des spécialistes de la traduction. Une fois qu'on a ça, qu'on a le Nouveau Testament, après ça, la traduction en français, la dernière, mettons la Summer, bon, bien, part de ça. D'accord? On parle de ce texte grec-là. Suivez-moi, là, bear with me. Là. 200 à 400 000 variantes possibles. Il y en a beaucoup que c'est des choses très simples qui se résolvent de manière très simple. Par exemple, imaginons on a une erreur en français. Je ne sais pas moi. La majorité des manuscrits d'un texte que moi j'aurais écrit dirait « Yannick est monté en haut dans sa chambre. Puis là, il y aurait deux manuscrits où il manquerait dedans. » Bon, mais il y a une variante, parce qu'il y a deux manuscrits qui n'ont pas dedans, mais il y en a 4000 qui disent qu'il est dedans et là, puis logiquement, tu dis, il y a un gars qui a juste été distrait, il s'est gratté la tête, puis il a oublié dedans, OK? Mais ça, là, vous ne les verrez jamais dans votre Bible, là, ces questions-là, d'accord? Parce que c'est trop évident, c'est facile à régler comme question. En fait, celles-là, vous ne les verrez même pas dans le texte que je vous parle, les deux textes du Nouveau Testament, parce que c'est trop simple. Les scientifiques ne se posent même pas de questions, ils comprennent. C'est évident. Dans ces éditions-là, il y a 1498 environ variantes où on dit, on n'est pas sûr ici, si c'est ce mot-là ou il y a quelque chose là. Et puis, dans nos versions françaises, anglaises, tout ça, qui prennent le temps de les rapporter, vous avez à peu près 1% des 1448 où on dit, mais ça, ça peut changer quelque chose pour comprendre ce verset-là. Là. Fait qu'on va vous mettre une note. Par exemple, il y a un passage dans Matthieu que je cite, là. Je vais terminer avec cet exemple-là. Si vous allez au bas de la page 4, exemple Matthieu 5, 22. Probablement que dans toutes vos Bibles, là, je vous donne un petit devoir, vous irez voir ça. Probablement que dans toutes vos Bibles, c'est écrit, si un homme se met en colère contre son frère, OK? Si vous allez voir la King James Version, ça va être marqué là, en anglais, là, mais s'il se met injustement en colère contre son frère, OK? Mais vous allez voir dans les Bibles modernes, toutes les versions modernes, il n'y a pas de « injustement ». Non, non, Jésus est beaucoup plus sévère que ça. Il ne dit pas « injustement ». Il dit « si quelqu'un se met en colère contre son frère ». Oui. Oui. Oui, ça change. Oui, dans ce cas-là, ça change quelque chose parce que est-ce que Dieu va juger sévèrement quelqu'un dès qu'il se met en colère contre son frère? Ou s'il va juger quelqu'un sévèrement lorsqu'il se met injustement en colère contre son frère? Vous comprenez, il y a toute une nuance qui est là. Or, celui qui a fait la King James Version à l'époque, c'est une commande faite par le roi, avait accès à 25 manuscrits. Aujourd'hui, on a accès à 25 000 manuscrits. D'accord? Et donc, peut-être que vous auriez une note dans votre Bible, peut-être que vous n'auriez pas une note pour ça. D'accord? Mais c'est des choses qui sont assez simples. Je dois m'arrêter ici. La semaine prochaine, on va compléter ça. Les cinq autres questions sont moins techniques que ça, mais celle-là est importante. Vous voyez l'importance quand même du sujet, c'est super important. Je sais que certains d'entre vous, c'est comme, aïe, aïe, qu'est-ce qui nous sort là, lui, un matin? Je ne sais même pas si je peux l'écouter prêcher dans Jacques tantôt. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Vous allez voir, moi, personnellement, c'est quelque chose qui fortifie grandement ma foi. J'ai toujours dit, quand j'annonce l'Évangile à des gens, j'ai pas de problème à t'écouter. Si tu peux me démontrer que je suis dans l'erreur, ça va me faire plaisir de quitter l'erreur pour aller vers la vérité. D'accord? Parce que je crois que Dieu est la vérité, fait que ça ne me trouble pas, ça. Ça va, fait que j'aime mieux qu'on soit intègre dans notre démarche plutôt que de se faire des accrocs. Puis le texte demeure tout à fait inspiré et fiable. Ça va être la conclusion quand même. Seigneur, notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole. Seigneur, ta parole est absolument extraordinaire. Et cette semaine encore, alors que j'étudiais cette question, mais que j'étudiais aussi le livre de Jacques, Seigneur, ton esprit me parlait parce que ta parole est sainte. Et oui, Seigneur Jésus, ta parole est vraie. Tu as protégé tes écritures et rien de ce qui a été enseigné dans ta parole ne doit être d'aucune manière. Seigneur, je te prie pour tous et chacun dans la salle. Je te demande de fortifier notre foi. Je te prie de m'aider à bien répondre aux questions aussi, Seigneur, afin justement qu'on puisse se présenter un évangile et une foi qui est intelligent, Seigneur, digne de toi lorsqu'on parle de toi aux gens autour de nous. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.